chaleureusement d'être ici et qui va nous parler des charismes, toujours dans notre thème sur la prière. Étienne René, vous êtes toujours enseignant à l'école cathédrale et à la faculté Notre-Dame au Bernardin. Vous êtes aussi vicaire en paroisse et chargé du pôle mission, le fameux pôle mission. Et vous avez écrit plusieurs livres, tels que Le Christ vert, qui traite de l'écologie, ou encore Unité du Dieu psalmique, qui pourrait peut-être vous intéresser. Merci Étienne René d'être présent pour cette conférence.
Merci, je suis heureux de venir. C'est un peu prière et charisme. Vous savez, on vous donne deux mots, puis il y a des jeux de société, comme ça on vous donne deux mots, puis il faut en trouver un troisième. Il y a quand même un lien. Donc je me présente très, très rapidement. Donc, moi je suis prêtre depuis 15 ans. J'étais de la promotion, entre guillemets, de Florent. Donc nous connaissons relativement bien. Et donc c'est toujours une joie de venir aussi voir à quoi ressemble cet Allah dont il parle. Avec des sanglots dans la voix, chaque fois qu'on le croit. Voilà, qu'est-ce que je peux dire pour introduire un petit peu le thème. Moi, j'ai pas du tout de passé ou de passif charismatique. C'était pas la culture familiale. Mon père, qui est toujours de ce monde, est devenu, avec l'âge, il a 90 plus maintenant, 92, mais depuis l'âge de 60 ans, il est devenu assez missionnaire, dans le sens où il ne rougit pas du nom de Jésus devant les hommes, pour parler comme dans l'Évangile. Ouais. Donc maintenant, à chaque fois que je le croise, il me raconte un coup de... Il a branché quelqu'un devant les courgettes bio, et au bout d'une minute, il nous parle de Saint-Hildegarde, et après, il parle du bon Dieu, quoi. Et un peu moi dans le même temps, ça me touche pas mal ce genre de trésor. Dans le même temps, moi depuis mon ordination, parce que je pense qu'avant c'était un peu présent mais quand même modérément, enfin au séminaire c'était pas. Et depuis mon ordination, je me suis mis de plus en plus à la mission un peu directe. Voilà. Donc ça fait sur une quinzaine d'années et au milieu du guet un peu là-dedans, donc depuis on va dire 7 ans, quand on est dans la mission. C'est ce qui nous est raconté, je raconte toujours la même chose, mais comme je ne vous vois pas souvent, vous ne le savez pas. Et dans l'Évangile, on nous dit très clairement que si on commence à annoncer, proclamer le royaume, proclamer c'est le verbe du kérim, c'est-à-dire c'est annoncer, c'est pas faire des grands trucs sûrs, c'est dire le royaume est là. Quoi. Donc à charge à chacun de nous de trouver la formulation de ce propos, mais le royaume est là. Quand on annonce ça autour de nous, l'Évangile nous certifie. C'est les paroles de Jésus, c'est les promesses de Jésus, au fond, que des signes vont suivre. Alors, c'est une manière d'aborder la question de la vie charismatique, c'est qu'il va se passer des choses, quoi. Quand on annonce la présence du royaume, je vais le dire un peu autrement, c'est la phrase de l'Évangile, hein. Quant à eux, ils proclamaient la parole en tout lieu, c'est la finale de Marc. Donc ça, c'est, vous voyez, on nous dit, proclamer la parole, voilà. Le Seigneur, donc c'est Jésus, travaillant au milieu d'eux, ils confirmaient par des signes la parole. Donc, c'est un peu l'expérience que j'ai faite, c'est quand on commence à se coltiner un peu de la proclamation, en fait, ceci se produit, c'est qu'il commence à y avoir, il y a une convenance en fait qui est des signes. Si tu dis à quelqu'un le royaume est là, le bon Dieu va attester à la personne du royaume est là. Donc moi, ça c'est un peu venu quand même transformer quelque chose dans lequel j'avais un peu grandi et qui est parfois un petit peu omniprésent dans notre pensée, c'est l'idée que la foi fonctionne plutôt sans les signes qu'avec les signes. Vous voyez que la foi, ça serait vraiment la vraie foi, ça serait de croire sans avoir trop d'éléments, c'est de croire sans voir, quoi. Si on regarde, en fait, pour une part, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais pour une part, il y a une arnaque aussi, et je pense quelque chose de très fragilisant pour la vie spirituelle, c'est que quand on regarde les évangiles, l'économie générale des évangiles, c'est pas qu'il n'y a pas de signes. Jésus n'arrête pas de donner des signes. En revanche, il emmerde les gens sur le passage de « je vous avais des signes, qu'est-ce que vous en faites ?» Donc il y a ce point d'attention-là. Donc voilà, moi j'ai commencé un peu par la mission à avoir une ouverture à la question des charismes, et puis de plus en plus. Puis après, je me suis... Providentiellement, j'ai eu une année où j'ai arrêté une mission qu'on m'avait donnée dans un gros bahut parce que j'étais l'aiguille commençait à chauffer au rouge, pas parce que j'ai eu des problèmes de mœurs, hein, donc on se détend. C'est une blague assez malvenue par le temps. Mais donc je me suis retiré, du coup j'ai eu du temps pour travailler un peu ces questions-là, pour travailler de manière un petit peu plus sérieuse avec les questions des charismes, que d'où ça vient, comment les mettre, les activer, les pratiquer. Voilà. Et à la fin de cette année-là, toujours providentiellement, Monseigneur Michel Opleti, d'heureuse mémoire, m'a proposé de monter un pôle mission pour le diocèse de Paris. Donc c'est le fameux pôle mission, comme ça a été dit. Pôlemission.fr, il y a plein de trucs dessus, dont de la mission de rue. Si vous avez envie d'avoir une ouverture à la vie des charismes, vous pouvez venir faire de la mission de rue le vendredi soir, vous retrouverez votre aumônier préféré, habituellement. À 20h, tous les vendredis soirs, hors vacances scolaires, à Notre-Dame des Victoires, vous venez et vous cherchez dans la sacristie, on est là, on part de là. Ça dure 2 heures, et plus il y a affinité pour prendre une petite bière quand même pour partager les trucs qu'on vit qui sont incroyables. Alors, je ne pars pas de là, moi ça c'était pour dire un peu la question, de, pour dire, moi je suis pas né dans la question charismatique, mais j'ai découvert la convenance en fait, et en fait que l'évangile se réalise. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure dans le livre, en fait, l'évangile, du coup, plus j'entre là-dedans, plus je réalise que l'évangile n'est pas tant une histoire, on pourrait dire, de ce qui s'est passé. Enfin, c'est ça pour une part, mais c'est tout autant nous décrit ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, on n'est pas dans un rapport à un message, à une espèce de lettre, vous voyez, dont il faudrait s'inspirer d'un message, de valeur, d'un truc qu'il faudrait reproduire. Non, en fait, l'évangile est réel. Et on peut étendre à toutes les écritures. Et là, je l'ai vécu encore cette semaine, et des trucs assez étonnants. Je suis en train de relire un peu les livres de Samuel, parce que j'accompagne des groupes qui sont en train de relire ça. Et il y a des passages dans les livres de Samuel. En fait, quand on a une ouverture sur les charismes, en fait, il y a des trucs hallucinants sur la réception intérieure d'une motion prophétique. Mais des scènes, moi j'ai relu une scène qui ne m'avait jamais marqué. Mais quand vous la réabordez avec cette question-là, en fait, vous voyez très très bien, et j'ai eu plusieurs scènes du livre de Samuel en fait, qui me sont remontées à la mémoire en vivant telle ou telle chose dans la rue. Vous voyez, les Écritures s'accomplissent, c'est ça notre vie chrétienne. Les Écritures s'accomplissent. La réussite de notre vie, ce sera est-ce que les Écritures se sont accomplies dans ma vie ? Donc on n'est pas dans un critère de réussite, dans des critères de réussite mondaine. C'est est-ce que les Écritures s'accomplissent dans ta vie ? Et parfois, c'est à travers les pleurs de David, et elles s'accomplissent de cette manière-là. Parfois, c'est à travers l'intronisation royale de David. Et donc, c'est dans la joie. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce que je dis sur les évangiles, l'évangile est réel, mais pas une histoire. L'évangile est réel, c'est ton histoire. Ça vaut, en fait, pour toutes les Écritures, qui viennent comme se condenser dans l'évangile. Je repars maintenant du thème du jour qui est la prière, mais pour dire, en fait, cette ouverture charismatique, moi, ma formation, ma conversion adolescente, c'est en démarrant la vie d'oraison, d'une certaine manière. Très modestement, 7 minutes par jour et au point de départ, parce que là, la mère d'un ami avec laquelle on avait un groupe de lecture, on a parlé de ça, et c'est la première fois qu'on parlait d'oraison. Je me suis dit, ça a l'air bien, cette manière de prier, on m'a jamais parlé de ça, de dire, en fait, je me mets en prière. J'entre en présence de Jésus qui est là. Quoi. J'essaie de m'ouvrir à cette présence. Voilà, j'ai vécu, je pense, quelque chose d'assez... une forme de révélation intérieure, que Jésus est vraiment là. Quoi. Et donc, longtemps, moi, ma porte d'entrée, c'était ça, c'est-à-dire l'oraison, le Carmel, comme je suis passionné des auteurs du Carmel. Ouais, la présence de Dieu à travers le secret de l'oraison. Vraiment le lieu, la voie royale pour faire l'expérience de Jésus ressuscité. Maintenant, j'ai quand même complété je m'aperçois que l'autre porte d'entrée royale, c'est la mission et les signes du royaume. On voit aussi que Jésus a fait. Et c'est un peu les deux pôles, pour moi, de la vie chrétienne, où c'est le plus intensif. Quoi. Le secret de la prière et l'ouverture et les signes qui sont donnés à vivre. Donc ma vie de prière, elle était vraiment très dans l'oraison. Non, ça ne veut pas dire qu'il y a... Mais vous voyez, donc on est beaucoup dans... Je pense que certains parmi vous pratiquent un petit peu. Donc la méditation, c'est-à-dire qu'on prend la parole de Dieu, puis on se concentre simplement sur le fait que le Seigneur est là. Ce n'est pas toujours vibratoire, même rarement. Bon, c'est des choses assez simples, etc. Et moi, j'ai découvert avec les charismes que la dimension charismatique pouvait enrichir sa vie de prière. Donc, on peut peut-être commencer par ça. Vous voyez, c'est que la vie charismatique, elle s'enracine au fond dans une écoute de Dieu. Et avec une dimension parfois d'écoute qu'on pourrait qualifier de prophétique. Alors, je ne sais pas comment ça, on appelle ça ce qu'on appelle un peu les charismes prophétiques. C'est la conscience que Dieu peut me parler de manière assez directe. Dieu peut m'inspirer une parole un peu comme ça. On va parler à la table. Donc ça se... Certains d'entre vous pourraient en témoigner, l'avoir déjà vécu. Mais voyez, on peut vraiment recevoir une parole assez distincte intérieurement dans la prière. Voilà. Moi, on ne m'avait jamais ouvert à ça. Donc, même si après, en relisant, on s'aperçoit qu'on a vécu peut-être parfois un moment ou l'autre, quelque chose comme ça. Mais si on n'en parle pas, c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour en parler, pour vous rendre attentif en fait, à ce qui passe ou ce qui se passe en vous. Et du coup, avoir une espèce de... Vous voyez, c'est comme si on branchait un deuxième radar. Voilà. Parce qu'il y en a un qui est un peu branché, c'est celui d'un petit peu parfois de l'intériorité, de l'attention à ce qui se passe quand on lit la parole de Dieu. Vous voyez, un peu une approche un peu ignatienne, ou bien quelque chose comme ça. Vous voyez, le goût de la parole, la manière dont je rumine la parole. Je ne sais pas si vous avez été formé là-dessus pendant ce cycle sur la prière. Je ne vais pas refaire le travail qui aurait dû être fait.
J'ai été fait cet été.
Voilà.
On a fait un pèlerinage sur les pas de Saint-Ignace.
Donc, vous avez ces éléments-là, de je lis la parole, et puis là où j'ai du goût, ou là où il y a un truc bizarre, je fais un détour pour voir qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre qui m'interpelle dans la parole de Dieu, et je rumine et je reprends, et ça libère des choses pour moi. Donc il y a ça. Mais il peut y avoir dans la prière, je peux m'attendre, soit dans ma prière d'oraison, on va dire méditation, oraison quotidienne, soit dans d'autres moments de la vie, j'en parlerai, oui, en marchant, je peux m'attendre à avoir des inspirations directes. On pourrait appeler des motions prophétiques, mais qui ne sont pas des trucs réservés à des illuminés, que seraient, je sais pas, des membres de communautés nouvelles charismatiques, ou à des mutants un peu comme moi, qui, alors qu'ils ont des lunettes et qu'ils enseignent aux Bernardins, ont une ouverture charismatique, ou à des gens qui auraient, je ne sais pas quel talent particulier, vous voyez, des chakras particuliers, ou qui auraient une sainteté particulière. L'Évangile nous dit que ça n'a rien à voir avec la sainteté. Donc vous voyez, on peut déconstruire tout ça, dire c'est lié à ta vocation de baptiser. C'est lié à la dimension prophétique de ton baptême. Voilà. Tu as une qualité d'écoute prophétique. Donc Dieu peut te parler. C'est la promesse de Jérémie 31:31, une connaissance directe. Ça ne veut pas dire qu'on relègue tout le reste et qu'on n'a plus besoin de personne, ni de la tradition, ni de l'Église. C'est pas ça. Mais Dieu peut aussi te parler comme ça, on dirait. Et il nous parle avec ce que nous sommes. Il nous parle avec ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'il peut te parler, il va te parler à travers ton en passant aussi par ton imaginaire. Donc Dieu peut te parler par une image. On voit ça au tout début du livre de Jérémie. Jérémie qui dit au chapitre 1. Dieu qui dit à Jérémie, que vois-tu ? Une branche d'amandier. Voilà, que vois-tu ? Une branche d'amandier. Alors, soit on peut imaginer qu'il était devant un arbre et puis Dieu, il entend Dieu qui dit, que vois-tu ? Il dit, je vois une branche d'amandier. Soit ça peut aller dans le sens de que vois-tu qui vient dans ton imagination ? Une branche d'amandier. Et ensuite, Dieu lui donne l'interprétation. Oui, alors amandier, ça se dit, comme vous savez, ça veut dire veilleur. Là, c'est veilleur, c'est un des arbres qui, je pense, germe enfin bourgeonne en premier. Voilà. Et donc Dieu fait un jeu de mots avec, ben voilà, oui, ça me veille parce que je veille sur Israël à ce moment-là.
Sur l'accomplissement de la parole.
Voilà, je veille sur l'accomplissement de la parole. Et donc c'est un jeu de mots pour dire, je te montre une branche de veilleur, et donc cette image, tu dois l'interpréter et comprendre que je veille. Puis après, il lui donne une autre image, un petit peu plus compliquée, et puis il dit, que vois-tu ? Je vois un chaudron qui marmite, qui bouillonne, et Dieu lui redonne une interprétation. Eh bien, ceci, nous pouvons le vivre, en fait. Dieu peut tout à fait te donner une image pour ta prière qui peut avoir une incidence à travers laquelle il peut exprimer quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que la manière de Dieu de parler par image est complètement attestée bibliquement. Et saint Thomas d'Aquin, quand il reprend le truc, il dit que ça, voilà, ça fait des parties des choses. Donc Dieu peut te parler par image. On va faire un petit exercice. Vous fermez les yeux, un sapin de Noël. Et quand vous voyez le sapin de Noël, vous levez la main droite. Donc, si un jour vous recevez une image de, je ne sais pas, d'un petit chien qui va vous conduire vers quelqu'un qui a un petit chien comme ça, ça sera de cette manière-là. Vous voyez que ça va se venir intérieurement. Vous voyez le point ? C'est-à-dire que Dieu te parle par image, ça ne veut pas dire que tout à coup, tu as une espèce d'apparition dans la rue, ou même une espèce de truc hyper puissant intérieurement. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Ça passe par la modalité habituelle de l'imaginaire. Dieu peut te parler donc par un autre sens qui est l'audition, ce dont on parlait tout à l'heure à la table. Là, vous dites que ce n'était pas une parole physique, mais en fait c'était une parole à la limite plus claire, presque intérieure. Je pense que vous avez déjà peut-être tous eu un peu ça de réentendement. Faisons l'exercice simplement, vous voyez, vous fermez les yeux, c'est plus facile les yeux fermés. On peut le faire les yeux ouverts, c'est plus facile les yeux fermés. Et vous pensez à, je ne sais pas, une conversation que vous avez eue avec un ami ou une amie, une conversation un peu significative, récemment. Et est-ce que vous entendez une des paroles que la personne vous a dites ? Est-ce que vous l'entendez la personne vous dire ? Et quand vous entendez la personne vous redire une parole, vous dire une parole, vous levez la main. De cette manière-là peut venir une parole intérieure. Et si on ne vous le dit pas, vous voyez, vous pouvez avoir des trucs qui passent, vous ne les voyez même pas passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'un truc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose d'assez ténu. C'est quelque chose d'assez ténu. Mais Dieu peut parler de cette manière-là. Voilà. Dieu peut parler aussi à travers un peu parfois une émotion. Ça peut arriver, vous voyez, qu'il vous est tac, un truc qui vous vient et qui peut avoir à voir avec. Mais là, ça va peut-être être moins dans votre prière personnelle que quand vous priez pour quelqu'un, par exemple. Quelque chose qui vous vient de particulier, une émotion particulière qui peut. Alors là, il y a toujours une interpréter, donc il n'y a jamais de j'ai une émotion, donc ça veut dire que la personne est dans cet état-là. Mais ça peut être une piste pour ça. Vous voyez, une tristesse qui vous vient, et ça, vous allez, en fait, sans que la personne vous l'ait dit, vous allez savoir que la personne. Le Dieu vous montre que la personne est triste. Ou vous pouvez ressentir une colère alors qu'il n'y a pas de motif, et donc Dieu peut vous montrer que la personne est en colère, pour vous aider peut-être à faire quelque chose. Et une dernière manière dont Dieu peut te parler, c'est à un niveau plus notionnel, on pourrait dire, plus de l'ordre des pensées. Donc c'est un peu plus fin, parce que vous voyez, ce qui vient, une image qui vient, même si parfois c'est souvent assez ému, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment des trucs hyper légers. Je connais des gens pour qui c'est plus prégnant, ça s'imprime un peu plus. Donc l'avantage, c'est qu'ils voient mieux le truc, mais parfois ils sont trop impressionnés par l'image, et donc ils ont du mal à gérer le discernement de ce que je fais de cette image. J'ai l'impression que c'est Dieu qui parle en direct. Or, Dieu parle toujours à travers les puissances, quoi. Donc il y a toujours à interpréter, il y a toujours à être libre par rapport à ça. Donc la dernière chose, c'est que je peux avoir une idée, quasiment une pensée qui me vient, de, je sais pas, ça peut être quasiment, vous voyez, il faut que la personne se confesse. Vous voyez, c'est une idée. Vous pouvez l'entendre comme une phrase, vous pouvez voir un prêtre qui confesse la personne, vous pouvez avoir la pensée de, il faut que cette personne se confesse. Bon, après, ce qu'il faut lui dire, j'en sais rien. C'est un peu un deuxième step. Bon, là, je vous dis juste ça pour vous dire, dans votre prière, sans être addict à ça, parce que là, quand vous lisez du Saint Jean de la Croix, de Thérèse d'Avila, ils vous disent, non, en fait, globalement, ils disent attention aux images, parce que on risque ou à ces motions-là, parce que ça peut amener finalement plus de distraction et d'appétence distractive qu'autre chose. Donc c'est sûr qu'il faut rester très centré sur le fait que c'est moins surnaturel de recevoir une image, si impressionnante fut-elle, que d'entrer dans le recueillement profond où il se passe à peu près rien au niveau sensible. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est au point de vue du surnaturel, c'est vraiment le niveau du dessus. Les grâces contemplatives, c'est-à-dire si on lit Thérèse d'Avila, c'est au-delà du niveau 4, niveau 4 et plus, quatrième demeure et plus. Je ne sais pas si ça vous parle, ces catégories-là. Un peu ? Non ? Pas du tout. Bon. Elle dit, vous voyez, dans la prière, je peux avoir un peu du recueillement, je peux avoir des choses, des choses, et puis je peux avoir quelque chose qui est de l'ordre de un truc que je ne peux pas me donner à moi-même. C'est vraiment le repos des puissances. Quoi, un peu. Elle dit, bon, bah, là, en fait, c'est du surnaturel plus. Elle, à côté de ça, elle dit, bah, en fait, une petite image qui devient et tout, bon, c'est sympa, mais c'est très en dessous, quoi. C'est beau, c'est moins substantiel. Voilà. Je dis ça pour dire qu'il faut rester ordonné intérieurement pour vraiment sentir en fait que pas se laisser distraire. De la même manière que la charité est plus surnaturelle qu'une motion prophétique. Vous voyez, être dans le service d'une personne est plus surnaturel qu'une motion prophétique. Donner sa vie, vous voyez, le martyr est beaucoup plus surnaturel qu'une guérison de quelques niveaux futels. Voilà. Donc, les grâces contemplatives, la charité, il ouais, faut que ce soit bien en place. Les grâces, on va dire, l'émotion prophétique et autres, c'est bien, c'est au service d'autre chose, mais ce n'est pas central. Quoi. C'est pas central, c'est pas pour ça qu'il faut vous voyez, ne pas y être attentif. Enfin, moi, c'est vraiment mon discours aujourd'hui, c'est de dire, c'est trop dommage de se priver de ça, en fait. Non seulement c'est dommage, mais je pense que c'est pas sérieux par rapport au bon Dieu, quoi. C'est-à-dire que si le bon Dieu te parle aussi de cette manière-là, je vois pas pour quel motif, en fait, on snobberait le truc, quoi. Surtout qu'on peut faire du bien à beaucoup de monde à travers ça. J'y arrive. Donc, vous voyez, peut-être soyez attentifs dans votre prière, sans que ça crée de l'agitation en vous, mais Dieu peut très bien... Vous voyez, il y a des moments où vous dites « Seigneur, parle, ton serviteur écoute, quoi. Parle, je t'écoute, Seigneur. » Vous voyez, à un moment ou l'autre, il peut très bien avoir une image qui vous vient intérieurement et qui peut alimenter quelque chose en vous. Moi, sans rien dévoiler, mais j'ai déjà reçu des images, une image intérieure. Vous voyez, où Dieu me dit quelque chose de comment il me voit, quoi. Ben, s'il a envie de nous parler comme ça, il peut nous parler comme ça. Alors souvent, si c'est quelque chose de substantiel, il va y avoir une ou deux confirmations derrière. Quand c'est les trucs les plus lourds, souvent il y a confirmation. Mais parfois, pour le truc du jour, il peut y avoir juste une petite chose qui est donnée et qui peut avoir une incidence. Voilà, donc soyez ouverts à ça. Et ensuite, ces motions-là, elles peuvent vraiment aussi venir irriguer un peu le quotidien, et notamment dans cette dimension de la mission. Vous voyez, vous amenez des petites inspirations, un petit mot qui vous vient, je ne sais pas, le visage de quelqu'un qui vous vient, et en fait, vous allez peut-être... Vous voyez, soit vous vous dites juste, ah bah tiens, vous ne voyez même pas le truc passer, soit vous vous dites, tiens, pourquoi je pense à cette personne, ça fait 3 ans que je n'ai pas pensé à elle. Soit, donc moi, pour me montrer un peu comment ça pouvait marcher, je me suis fait bondir une fois, pendant ma prière, c'était un peu au début où j'étais comme ça, je vois le visage d'une fille que je n'avais pas vue depuis 3 ans, et c'est quelqu'un que je connais à peine, en fait, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et dans la journée, je l'ai recroisé. Et vous voyez, je ne l'avais pas vue depuis deux ans, je pense. Je l'ai vu 3 fois dans ma vie, je pense. Mais là, je pense que c'était le bon Dieu qui parfois fait de la pédagogie, qui dit, en fait, je peux te montrer des trucs comme ça. Quoi. Vous pouvez tout à fait avoir le visage de quelqu'un qui vous vient, et après, vous pouvez dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette personne? Vous voyez, vous entamez un dialogue, en fait, vous avez un début de truc, et vous dites au Seigneur, mais c'est quoi la suite? Et puis, s'il n'y a pas de réponse, vous allez dire, je pourrais peut-être l'appeler, Seigneur. Vous voyez ce qu'il répond? Puis s'il répond rien, ben c'est peut-être qu'il faut l'appeler. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Je vous dis ça, je ne le fais pas toujours. Hein, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. Là, il y a 2 jours, j'ai eu quelqu'un, j'ai pas encore su quoi en faire. Parce que c'est un gars un peu assez sérieux, enfin, c'est un peu étrange, mais ça, c'est pas toi. J'ai pas encore su quoi en faire, mais il faut que je m'énerve et que je l'appelle d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai trouvé un alibi pour l'appeler, c'est pas très courageux. Mais voilà, on peut tenter les choses. Je pense que cette ouverture-là, elle peut vraiment nous aider, parce qu'on peut avoir une inspiration dans la prière, je pense que vous en avez déjà eu, mais là, vous voyez, on augmente un peu la réceptivité. On augmente la réceptivité. Donc voilà, avoir cette écoute, et ensuite, dans le quotidien, laisser ça se déployer, et vraiment s'attendre, en particulier au service de l'annonce, de la proclamation du royaume, c'est-à-dire quand on est vraiment en disposition missionnaire, mais alors on peut venir faire de la mission de rue le vendredi soir au Pôle Mission, pôlemission.fr, tous les vendredis soirs à 20h, j'avais dit tout à l'heure, mais je ne veux pas vous détourner de votre aumônerie. Hein,
c'est pas le même jour, il y a aucun...
Oui, mais ça, non, non, mais c'est un lieu. Mais ça peut être aussi dans votre quotidien. C'est-à-dire, je pense qu'il y a suffisamment de non-croyants ou de peu-croyants ou de mal-croyants entre guillemets autour de vous pour en fait pouvoir faire de la mission sans être sur le trottoir. Je vous encourage quand même à venir parce que c'est très joyeux le trottoir. Mais vous voyez, c'est à chacun de se connaître. Il y a des gens que ça terrorise d'être sur le trottoir et qui peuvent être très bons avec des collègues de boulot. Il y a des gens que ça, qui sont très à l'aise sur le trottoir et que ça terrorise de dire quoi que ce soit à un collègue de boulot. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, à chacun aussi de sentir un peu son lieu pour la mission. En revanche, si vous n'avez pas lieu pour la mission, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a non, mais ça veut dire qu'il y a un plafond de verre dans votre vie spirituelle. De même que quand il n'y a pas de vie fraternelle, il y a un plafond de verre dans la vie spirituelle. De même que s'il n'y a pas de vie de méditation en raison, il y a vraiment un plafond de verre. Donc il y a différents plafonds de verre qu'il faut faire sauter. La mission en est un. Donc ben, pour ça, pour le faire sauter, ce n'est pas très compliqué. Il ne faut pas se culpabiliser. Il faut juste dire à l'Esprit Saint, sers-toi de moi. Mais après, il faut s'attendre à ce qu'il se passe des trucs. Je vous donne quelques exemples, vous voyez, de motions prophétiques qui peuvent vraiment produire des fruits. Donc je ne sers que des produits frais, donc je vous raconte des histoires des 15 derniers jours. L'abbé Urfels, ici présent, donc vient, on n'était pas ensemble en mission, mais on rediscute toujours, bon, puis l'alcool est lent. Ouais, je suis généreux, donc je dis allez, je te raccompagne, parce qu'on prend un petit verre après tous ensemble. On repart, on va jusqu'au Louvre, on croise là une femme qui nous fait la manche, mais qui n'avait pas l'air d'une SDF, etc. Puis un type qui nous agresse à moitié en nous demandant 20 balles et en nous disant « Et me dites pas de retourner dans mon pays. » Bon, l'abbé Urfels cède généreusement. Et donc le gars tout de suite se calme, hein, il repart avec 20 balles. Bon, j'étais pas mécontent qu'il reparte et que ce soit pas moi qui ai lâché. Je repasse dans l'autre sens, nous quittons le long de la scène, et la femme en question me revient vers moi en me redisant un petit mot. Bon, elle disait la manche, mais elle n'était pas du tout SDF. Je commence à parler, puis elle me dit au moment, mais j'ai mal au dos, j'ai dit, bah, voulez qu'on s'assoie. Donc il était minuit 45. Voilà. Donc à 1h30, 3/4 d'heure plus tard, toutes ces affaires se terminent, donc elle me raconte sa vie. Fille de musulman et vaguement catho, et elle-même devenue bouddhiste. Donc, mais une pauvre femme, quelque part, mais en même temps touchante, enfin, c'était assez touchant. Moi, la vie des gens m'intéresse, je suis un peu comme mon père, donc la vie des gens m'intéresse, enfin, c'était touchant. Puis à la fin, donc, au fil de la discussion, elle m'a raconté ça, quand même 50 trucs de j'ai mal là, et j'ai un problème aux dents, et j'ai trucs. Et à la fin, je lui dis est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Vous avez dit que vous aviez une sciatique dans le dos. Machin. Elle me dit oh, si vous voulez. Voilà. Et donc, je prie pour elle. Je dis, ben regardez voir un peu ce qui se passe, et puis elle marche un peu, puis elle dit, ah, je crois que ça va un petit peu mieux. Je dis, ben attendez, Jésus va terminer le travail, on reprit pour elle, et puis elle me dit, ah, ben non, là, il n'y a plus rien. Jésus est vivant. Et là, elle me dit, il est en chacun de nous. Alors, je ne sais pas si c'était sa manière, vous voyez, syncrétiste, bouddhisante, d'avaler le truc. Bon, mais vous voyez ce que je veux dire, vous voyez, vous lui dites, Jésus est vivant. Voilà. Petite première histoire, donc c'était joyeux. Après, je ne sais pas jusqu'où. C'était pas hyper hyper. Là, je l'ai cru. J'ai cru ce qu'elle me disait. Je pense plutôt que c'était vrai. On arrive le lendemain. Je sors de la messe du soir dans la paroisse du 13e. Et le curé était là. Il était venu faire la sortie. On descend ensemble. On discute. Et au moment où on passe devant la boulangerie à l'angle avant d'arriver chez nous, mais vraiment la seconde où on passe devant, il y a une nouvelle boulangère, employée, qui sort griller sa clope électronique. Et au moment où on passe, elle dit « Ah, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai trop mal à la cheville. » On fait 4 mètres, et là, je me retourne vers mon curé, je lui dis « C'est pour toi, ça, non ?» Et il me dit « Ok, on y va. » Alors, on se retourne, puis on... Parce qu'en fait, vous voyez, moi, ce qui m'a fait le titre, c'est que je me dis « À la seconde où on est passé devant, elle nous lâche qu'elle a mal. » Voilà, donc... Mais on peut se dire « Ce mec est complètement dingue. » Là, on pourrait dire « Il faudrait 3-6. » Non, là, vous voyez, j'ai eu un truc intérieur, et j'en parle à mon curé, qui lui-même me dit « Allons-y. » Ce qui me confirme un peu, vous voyez, dans mon... Et donc, je lui dis, ben je viens d'entendre que vous disiez que vous avez mal à la cheville. Bon, je lui dis, mais ça. Vous avez, je sais pas, je lui dis, nous, on est des chrétiens de l'église qui est au-dessus, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Elle dit, ah ben pourquoi pas? Donc, vous voyez, ouverture comme ça. Et puis, je lui dis, mais vous êtes croyante? Elle me dit, ah, c'est compliqué. Donc, elle était kabyle d'origine. Donc, elle a eu lointainement un peu de contact avec le christianisme. Il m'a dit, mais j'ai pas trop envie d'en parler, que je chante, qu'il faudrait, que je revienne, mais c'est compliqué. D'ailleurs, ça me donne envie de pleurer. Donc là, vous voyez, vous sentiez déjà, on commençait à monter un peu en température. J'ai dit, vous avez mal depuis quand? Elle me dit, ça fait 3 mois. Elle me dit, à cheville gauche, je m'étais esquinté, mais ça a été bien remusclé. Mais là, elle a dit, à droite, ça sort de nulle part, les médecins savent pas ce que c'est. J'ai dit, bon, après, bon, on compris pour elle. J'ai dit, tester un peu, elle dit, ah, ça va peut-être un petit peu mieux. J'ai dit, non. Ah, non, je lui ai parlé de la guérison de la veille. Je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, parce qu'il faut toujours édifier la voix des gens. Donc je lui ai dit, vous voyez, hier, on a prié pour une dame qui avait mal, elle a été guérie. Bon. Donc c'était la ligne top. Et puis elle, donc là, elle me dit, ah, il n'y a plus rien. À ce moment-là, arrive dans la boutique un séminariste de Paris, qui venait de l'autre bout de Paris. Ouais, c'est un peu ça l'ambiance, et ouais, donc le gars, il arrive et il comprenait pas trop ce qui se passait. Donc il rentre, puis il ressort, puis il me dit, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais elle est excitée. La fille ressort, et elle dit, elle m'a dit, je suis bouleversée, mais je suis marquée. Elle dit, parce que non, mais là, en fait, ça fait 3 jours que j'ai des signes, que je reçois des signes, parce qu'elle dit, hier, je suis allée sur un site internet, et il y a un gars qui m'a mis en commentaire, Jésus t'appelle. Je sais pas si vous voyez déjà le... Non, mais vous voyez, mettez-vous dans la tête de la fille, c'est-à-dire que la veille, elle va sur un site. Il y a un mec qui lui met « Jésus t'appelle ». Et le lendemain, il y a 2 types qui s'arrêtent, qui disent « Je crois que j'avais mal » et tout, tac. Elle a la guérison de la cheville. Elle avait plus mal à la cheville. Je l'ai revue depuis. Donc elle avance, maintenant elle a un petit livre, elle est en train de lire l'Évangile. Vous voyez la motion de départ. La motion de départ, c'est je me dis « il y a peut-être un truc ». Mais ça, c'est l'Esprit Saint qui inspire ça. « Il y a peut-être un truc ». C'est pas 2 grosses flèches qui disent vas-y maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est comme ça que ça va se passer pour vous. Il y a peut-être un truc. Je me tourne vers l'autre qui me dit allons-y. Et elle, on lui dit est-ce que vous l'avez compris pour vous? Et elle a dit feu vert. Paf. Voilà. Là, c'était le samedi. Le mardi matin, le curé m'envoie quelqu'un, une vieille paroissienne qui a mal aux chevilles, qui s'est explosée, qui est tombée d'un escabeau de 2 mètres. Elle s'est explosée la cheville. Opération qui foire, etc. Donc maintenant, elle est avec des béquilles depuis 5 ans. Moi, je la vois, en fait, ça fait 5 ans que je la vois à la messe, au premier rang, à 9h30, le dimanche matin. Elle a tout le temps mal. Donc elle vient, on commence à parler. Pour édifier sa foi, je lui raconte l'histoire de la boulangère. Et là, elle me dit, oh, bah, si vous pouvez faire quelque chose pour moi, mon père. Ouais, genre, pas surmotivé par l'idée qu'il puisse se passer quelque chose. Moi, j'avais eu un encouragement préalable, c'est qu'avant, j'avais dit au Seigneur, est-ce que tu as un truc pour moi? Et je reçois, ce qui m'arrive de temps en temps, un numéro de page dans la Bible. Donc j'ai un numéro, j'ouvre ma Bible, et après je regarde à l'intérieur. Et donc là, j'avais le chiffre 7, je regarde la page, je ne voyais pas trop, et je regarde les 7 premiers mots, c'était, il y en a qui vont commencer à me prendre pour un dingue. Les 7 premiers mots, c'était, elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds. Donc, vous voyez, elle lui saisirent les pieds, et là, j'avais une femme qui allait venir. Et en fait, souvent, quand on prie pour quelqu'un, on peut mettre les mains sur l'endroit où la personne tourne. Vous voyez, elle lui saisir les pieds. Moi, ça m'a donné mon geste à poser pendant la prière. Je dis ça pour dire, en fait, ce petit truc reçu juste avant, moi, me donne un petit encouragement qui m'aide à poser des actes de foi. Parce que sinon, c'est assez difficile, vous voyez. Donc, c'est un peu comme de l'escalade. J'aime bien parler des sports que je ne pratique pas. C'est-à-dire que la foi, il faut avoir des petits points d'appui. Et les signes, vous voyez, les tout petits signaux que vous pouvez recevoir, c'est comme des espèces de points d'appui que le Seigneur vous lâche pour que vous puissiez poser des actes de foi plus forts et aller dans la foi. Bon, on prie pour elle. D'abord pour des choses spirituelles, parce qu'on sentait qu'elle était comme ça, en fait. Et ensuite, on a prié pour son pied. Donc elle commence à se. Mais elle a un pied tordu, elle a une plaque dans le pied, elle a des vis. Hein, et elle a super mal. Donc les vis ne sont pas ressorties du pied. On a prié. Mais on prie, elle a un petit peu mieux. Et puis on reprit une deuxième fois, je crois. Et là, elle n'avait plus rien. Mais elle était en état de choc. Quoi. Elle était là, oh mes doudous, mais regarde, mais je peux marcher. Donc elle était comme ça, état de choc. Et la première phrase qu'elle a dit, c'est « Ah mais, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir ?» Et donc 2 jours après, le soir, elle s'est repris le truc, et la douleur est revenue. Donc on a reprié pour elle ce matin, et on a prié une fois, le truc est reparti. Donc elle était encore, elle a dit « Mais c'est... »
Je vous dis ça pour édifier votre foi, pour vous dire, vous voyez, donc, le bon Dieu peut faire des choses comme ça. Je vous raconte une dernière histoire, un peu plutôt à partir de paroles reçues intérieurement, pour vous dire, le bon Dieu fait ce qu'il veut, en fait. Hein. Mais il faut s'attendre à ce qu'il fasse vraiment des choses. Là, honnêtement, moi-même, alors que normalement, quand je suis dans des trucs comme ça, le bon Dieu me coupe complètement, je ne suis pas un surémotif, mais le bon Dieu me coupe intérieurement, c'est-à-dire que j'ai quasiment pas d'émotion. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est pas très drôle, mais c'est comme ça. Et là j'avais quand même les larmes aux yeux. Avec cette femme, vous voyez, qui souffre depuis 5 ans, et là, alors, ça peut être violent aussi, parce qu'il y a son mari à côté qui lui a d'autres problèmes, et bon, pour l'instant, il y a rien pour lui, il est encore avec ses trucs. Donc, vous voyez, on n'est pas dans de la magie, mais c'est un signe qui lui est donné, je ne sais pas encore pourquoi, c'est une femme qui prie énormément, là j'ai appris ce matin qu'elle disait le rosaire tous les matins, elle prie 2h30 tous les matins. Donc je lui ai dit, parce qu'elle était là, ah mais si, je vous mets sur un piédestal, je lui ai dit, mais qui aimez-vous, justement, faut pas et tout. Après, je lui ai dit, bah, voyez-vous, machin, puis elle dit, oui, c'est vrai, je prie, je dis, bah, voyez, moi je prie pas 2h30 par jour. Ça a l'air un peu calme. Vous voyez, Dieu peut vraiment faire des choses comme ça, et alors, et peut agir. Donc ce charisme, vous voyez, de guérison qu'on peut exercer à plusieurs, ça se travaille un peu, ça s'apprend, mais je veux dire, c'est possible, il faut s'y attendre. Et quand on commence à s'y attendre, et que la foi s'édifie, il se passe des choses. Alors là, c'est au service d'une bonne chrétienne, mais dans beaucoup de situations, ça va être au service de gens, vous voyez, pour qui sont complètement à l'extérieur du bateau, et pour qui, aujourd'hui, la proposition « Jésus-Christ est vivant » est un truc absurde, quoi. Et donc, vous voyez, je revois en tête deux jeunes à qui j'ai raconté l'histoire de la boulangère, parce qu'on parlait avec deux jeunes en mission rue, comme ça, qui disaient, nous, on est plutôt agnostiques, machin. Et moi, je leur dis, mais moi, en fait, ça me révolte, l'agnosticisme. Mais pas dans le sens, vous me révoltez, mais en fait, ça me révolte qu'à votre âge, vous soyez habité par l'idée qu'on ne peut pas connaître la vérité. Ça les a pas mal touchés, je pense, mais ça a ouvert un peu un truc. Puis à la fin, j'évoque la question des signes, comme ça, puis je dis, c'est sûr que ce n'est pas facile de pouvoir adhérer si on n'a pas un masque. Et la fille me dit, mais c'est quoi des signes, par exemple? Et donc, je raconte l'histoire de la boulangère. Vous voyez, elle était comme ça, quoi. Elle était comme ça. Mais ces deux jeunes, moi, ça, je vous dis, ça me révolte intérieurement. Je me dis, les pauvres, quoi. Enfin, nous, on ne se rend pas trop compte, on est à l'intérieur. Mais le bon Dieu, c'est évident qu'il veut donner des signes pour que quand vous allez dire le royaume est là, les personnes, elles aient des moyens de croire. Elles aient des points d'appui. Ouais, vous êtes peut-être dans des milieux un peu trompeurs où ouais, la trajectoire de la belle conversion intellectuelle, juste par la puissance, un peu de... c'est pas pour le Pékin de la Russe. Hein. Ça peut peut-être marcher dans des ambiances un peu dans l'élite intellectuelle où les gens ont une puissance intellectuelle et une honnêteté intellectuelle, ce qui commence à faire beaucoup pour une seule personne. Ceci arrive quand même pas beaucoup. Il y a un moment où le bon Dieu, il s'abaisse, il donne des trucs. Quoi. Lundi soir, en rentrant de, j'étais en balade, je rentre de balade avec des amis prêtres. Et j'ai une petite parole intérieure, mais vous voyez, mais c'est un truc, parfois j'en ai, il ne se passe rien derrière. Donc il y a de la perte, vous voyez, il y a des trucs où je ne vois rien derrière, je ne sais pas si c'est 50% ou 40%, enfin j'en sais rien. Il y a régulièrement des trucs, je vais avoir un machin, je vais voir, et il ne se passe rien. Bon. Mais ce n'est pas pour ça que je boude et je dis, bon, si ce n'est pas 100%, ça ne m'intéresse pas. Ben non. Donc là, j'entends béquille rouge. Donc je branche le radar à béquille rouge. Voilà, donc 3 minutes après, je vois une femme avec des béquilles, je regarde, elles n'étaient pas rouges. Donc voilà, et en descendant du métro en arrivant à Paris, je marche et je croise une femme, béquille, là, l'arrière ici était rouge. Alors, je lui dis, bon, tentons. Et donc je l'interpelle, je dis bonjour, je vois que vous avez une béquille rouge. Donc je raconte rapidement le truc, je dis voilà, moi, je suis chrétien, parfois en priant, là, j'avais une béquille rouge, je dis est-ce que c'est quoi, vous avez mal à la jambe? Et elle me dit non, j'ai mal au dos. Voilà. On a prié pour elle, elle m'a dit j'ai plus rien. Je ne sais pas ce que le bon Dieu veut faire. Là, c'est hyper gratuit, c'est-à-dire qu'elle est là, c'est une paroissienne, donc je n'ai jamais vu, mais peut-être ça l'enjeu pour elle. Peut-être qu'elle revienne un peu. Mais, je ne sais pas. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et bouquet final, là, une magnifique histoire mardi, donc c'était le lendemain, je monte à l'église. Ça ne m'arrive pas tous les jours, hein, mais je veux dire, on peut s'attendre à ce que ça arrive tous les jours. Je vous encourage vraiment. Ne vous dites surtout pas, vous voyez, il est spécial. Non. Je veux dire, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous. Je monte à l'église et j'ai le mot qui me vient, c'est robe blanche. J'étais un peu dubitatif sur la probabilité, puis c'est quand même pas non plus 27 degrés. Donc j'avais 50 mètres à faire jusqu'à l'église, je regarde, je me dis, je vois pas trop de robe blanche. Bon, je suis pas non plus un malade, je me dis pas, je vais pas aller à l'accueil, il faut que je trouve quelqu'un avec une robe blanche. Ça pourrait arriver, mais là c'est pas ça en général, le devoir d'État passe avant. Donc je rentre dans l'église, j'expose le Saint-Sacrement, j'entends qu'il y avait du bruit au fond de l'église, je sais pas trop ce que c'était. Je vais me mettre à l'accueil, où parfois il se passe pas grand chose. Et là arrive, 5 minutes après, une bonne paroissienne que je connais, qui m'avait parlé 15 jours plus tôt, qui est vraiment une petite dame, quoi. Assez simple intellectuellement, simple intellectuellement, gentille, toujours un peu béate et très enthousiaste de toutes les homélies. Elle est au premier rang, comme ça, qui a toujours les trucs super. Une âme simple. Et 15 jours après, elle m'a dit, « Ah, mon père, il faut que je vous raconte un peu, parce que le père Cyril, il avait dit, soyez la plume de Dieu. » Moi, elle avait retenu ce truc-là, d'un père Cyril, qui était l'année dernière. Et donc, elle dit, mais j'ai un cousin qui est musulman et il avait des idées suicidaires. Donc, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais confie-toi, Jésus, tu connais Jésus, il sait avec. Parle-lui. Moi, je lui ai dit, mais vous savez, là, je l'ai rappelé. Et il m'a dit, je suis avec Jésus. Donc, comme ça arrive parfois avec les convertis qui viennent de l'islam, parfois Jésus, je ne sais pas pourquoi avec eux spécialement, mais il se manifeste de manière plus. Donc, le gars était avec Jésus depuis 8 jours. Quoi. Et donc en gros il voulait pas trop qu'elle l'embête, mais je suis avec Jésus. Elle me dit il m'a rappelé parce qu'il a fait un songe, enfin il a fait un rêve où il voyait, donc elle me dit dans le rêve il voyait, donc elle me parle de sa sœur qui est en phase terminale de cancer à 40 ans à l'étranger, elle la voit pas, et elle son angoisse elle dit mais ma sœur elle se confesse pas, elle est un petit peu décrochée de l'église, et donc en fait son angoisse c'est de dire est-ce qu'elle peut être sauvée quoi, elle meurt sans confession, etc. Elle a dit ce cousin, donc musulman en conversion qui rencontre Jésus chez lui, il a ce rêve de Jésus qui donne la coupe de l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il donne la coupe à sa sœur, et il dit ma sœur, elle était tout en blanc. Alors moi, ça commence à faire ça, vous voyez. Et elle me re-raconte l'histoire, elle me dit, Jésus donne la coupe à ma sœur qui était en robe blanche. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc, et en fait, elle venait me chercher pour me dire, est-ce que ce rêve est vrai, quoi, en gros. Moi, honnêtement, j'étais à deux doigts de pleurer, quand même. Parce que, c'est quelqu'un d'hyper simple, hein, c'est une petite dame, mais elle venait mais en fait, qu'à une foi, donc elle venait de ramasser, elle me dit, oui, là, je viens de, en entrant, elle m'a débordé ça, elle me dit, il y avait un monsieur, là, musulman, il était au fond de l'église, il était allongé par terre, il a dit, là, je suis mal, je suis pas bien, je suis triste, il a envie de se suicider. Elle dit, en gros, elle l'a consolé, elle dit, mais vous pouvez, et elle l'a amené devant le Saint-Sacrement. Elle dit, là, je suis contente, il est devant le Saint-Sacrement. Je lui ai dit, c'est le cœur de Jésus, là, c'est Jésus, c'est son cœur, tu peux lui parler. Elle me dit, là, il est devant. Il est en train de parler à Jésus. Je n'aurais pas su gérer le musulman, le suicidaire, mais au fond du truc. Mais je veux dire, moi, déjà, la fille, en fait, elle a un niveau de. Et elle vient, en fait, elle a ce tourment pour sa sœur. Jésus inspire à son cousin musulman un rêve que le gars lui raconte. Et de l'autre côté, quand elle vient me voir, moi, je reçois 10 minutes avant, vous voyez le truc qui permet d'attester la vérité du rêve. Quoi. Et robe blanche, c'est sa question à elle, c'est est-ce qu'elle est sauvée, ma sœur, qui ne se confesse pas. Ça vous fait pas pleurer? Moi, honnêtement, je trouve que c'est... Pour vous dire que ce que le bon Dieu peut faire. Quoi. Et alors je lui dis, bah oui, vous pouvez faire confiance à ça. Je vais vous dire d'ailleurs qu'il y a 10 minutes, je montais et j'ai entendu robe blanche. Enfin, j'ai entendu comme on a pu entendre tout à l'heure. Donc, j'ai pas entendu robe blanche. C'était un truc hyper tenu. J'aurais pu laisser passer. Maintenant, je laisse moins passer. Et là, elle-même commence à pleurer. Elle dit ah, j'ai chaud au cœur. Parce qu'elle a compris le truc, vous voyez. Elle a compris ce que Jésus a fait pour elle. Et là, elle me rajoute, elle dit normalement, j'avais l'habitude d'aller voir le Père Cyril toujours, mais qui s'est barré. Puis là, elle a dit. Non, j'ai senti qu'il fallait que j'aille vous voir, vous. Et donc, je suis allé devant Saint-Sacrement et j'ai dit à Jésus, inspire au Père Étienne ce que tu veux me dire. Vous voyez, c'est la prière d'une petite femme. Elle va demander à Jésus, elle dit, voilà. Mais elle va se soumettre au prêtre, vous voyez, pour une attestation. Vous voyez, enfin, c'est déjà, c'est spectaculaire. Hein. Voilà, le bon Dieu n'a pas de problème pour faire des trucs comme ça. We have to expect that. Vraiment s'attendre, des trucs comme ça sont possibles. voilà, pour la joie de cette femme-là. Et honnêtement, c'est très très joyeux. Alors moi, ce qui m'est vraiment monté dans le cœur à ce moment-là, mon lieu script, la parole des Écritures qui s'est un peu accomplie là, c'était Jésus tressaillit de joie sous l'action des... Jésus s'adresse à son père qui dit « Père, je te rends grâce. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Vraiment, cette petite... Mais vous sentez qu'elle s'est échappée du peloton. Quoi. Voilà. Bon, je raconte des histoires plutôt pour vous, pas pour me rendre intéressant, c'est pas un objet, mais plutôt pour vous donner du concret, plutôt qu'une théorie. En fait, attendez-vous à ce qu'il se passe des choses comme ça. Attendez-vous à ce qu'il se passe des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes baptisé. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller de rentrer dans une communauté charismatique ou de je sais pas quoi. Ça marche pour les partir du moment où on a un pied dans ça commence avant le baptême. Donc attendez-vous à ce qu'il se passe des trucs. Mais vraiment, attendez-vous à ça. Oui. Demandez-le au bon Dieu. Et puis à un moment, formez-vous aussi pour progresser là-dedans. Et puis quand il se passe des choses, racontez-les-vous. Parce que c'est ça qui édifie la foi. Si on est tout seul sur son couloir, surtout au début, ça va être trop intermittent. C'est compliqué d'amorcer la pompe d'une certaine manière. Vous allez très vite dire, oh, mais non, mais en fait, il n'y a rien. Mais si vous cassez le... Parce que moi, j'ai eu plein d'histoires, vous dites à quelqu'un, j'ai eu cette image-là, puis le mec te dit non, ça ne me parle pas du tout. Alors, vous êtes à Amon, vas-y, tout à l'heure, machin. Puis une fois, deux fois, trois fois, ça déstabilise. De même que quand l'autre jour, la dame qui avait ces trucs depuis 5 ans, quand au bout de 2 jours, moi, je la revois le dimanche, elle me dit, ah, c'est reparti et tout, ça m'a déstabilisé parce que je me suis dit, mais en fait, on joue à quoi ? Elle était tellement heureuse sur le moment que, vous voyez, la déception. Donc j'ai vraiment dû discuter avec des personnes, me battre intérieurement. Pour comprendre, vous voyez qu'il y avait un autre enjeu pour elle, et ce matin, quand on a reprié, je vous dis, en moins de 10 secondes, la guérison est revenue. Enfin, en fait, la guérison a été donnée. Et donc, en fait, après, il a fallu se battre pendant 10 minutes, plutôt sur d'autres points, de dire comment l'aider à garder la guérison dans la foi. Et pour dire que on peut être vite déstabilisé par un truc qui va vous faire douter de est-ce que c'est pas dans ma tête, est-ce que je suis pas dingo, est-ce que si. C'est pas raisonnable, voilà. Donc, sans arrêt, il y avoir des trucs comme ça. Puis évidemment, ce serait le mot de la fin, évidemment, ça n'intéresse pas du tout l'adversaire, le diable, qui commence à se passer des choses comme ça dans votre vie. Hein. Parce que vous voyez, ça s'appelle, dans le langage de Paul, ça s'appelle annoncer l'évangile avec puissance. Pas avec la puissance, mais avec dans la puissance de l'esprit. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs. Ouais, tant qu'on fait des petites conférences, machin, le diable, ça lui va. Hein. Et si on commence à annoncer l'évangile dans la puissance de l'esprit, voilà. Et donc ça veut dire aussi qu'il peut. C'est pour ça qu'il ne faut pas être tout seul, pour faire ça, faut pas être tout seul, il faut avoir une vie spirituelle un petit peu solide, etc. Parce que ce qu'il va chercher à venir mettre le why. Mais je ne dis pas ça pour créer de l'inquiétude, c'est pas du tout gros, mais c'est évident que ça ne m'intéresse pas. En revanche, ça intéresse Jésus, et c'est le projet. Hein. Que chacun de nous puisse. Et c'est simple, hein. On se prend pas la tête. J'ai parlé trop.
Merci.
Bon Dieu, sur vous, sur la vie, vous voyez ce qui vient intérieurement. Vous pouvez demander au bon Dieu, comment est-ce que tu me vois en ce moment. Je dis ça, c'est des Américains qui m'ont appris ça, donc ça peut être un petit peu un démarrage. Et puis vous pouvez, je ne sais pas, si vous allez voir quelqu'un à un moment, ou un ami, un machin, vous pouvez dire, est-ce que tu as quelque chose pour lui ou pour elle. Et puis vous testez, quoi. Mais n'ayez pas peur de c'est bien de le faire au début dans un cadre un petit peu safe. Donc on pourrait faire une autre soirée et puis faire des petits exercices que je pourrais t'en donner éventuellement. Vous pourriez faire des exercices entre vous, en fait, parfois pour commencer à libérer un peu quelque chose. Mais osez exercer, n'ayez pas peur de vous tromper. Il ne faut pas faire des trucs de cramer tout de suite, parce que sinon, en fait, vous allez vous décourager. Venez faire de la mission de rue. Parfois, vous voyez, avant la mission de rue, on demande, bah, tu pourrais raconter aussi des histoires que... Non, mais, vous voyez, on demande parfois si on a une parole intérieure. Et puis, je me permets de dire ça, mais vous voyez, Florent, qui il y a un an et demi, il me disait, non, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Donc, ouais, maintenant, il reçoit les choses. Parce qu'en fait, c'est pas mon truc, mais pas, en fait, on peut pas dire ça. Donc, faut s'attendre, faut avoir une ouverture intérieure, et puis il y a des moments où faut aussi le demander. Donc, ce serait peut-être pas bon ce que j'appelle. Mais aussi, bah, j'ai envie de dire, demandez-le. Dis, Seigneur, je te demande de m'ouvrir à l'écoute, une écoute vraiment charismatique. Je te demande ça, Seigneur. C'est Saint Paul qui dit demandez ardemment les charismes, demandez ardemment les dons spirituels. Donc, demandez-le, et puis testez des choses. Ça ne va pas vous tomber comme ça. Après, il faut tenter des trucs.
Et tu nous as bien fait comprendre, sachant c'est toujours dans l'espace de la charité, en fait, c'est jamais des trucs, c'est pas voyant extra-lucide, c'est toujours, que ce soit des guérisons, une parole de réconfort, c'est toujours dans le milieu ambiant de la charité, en fait, sinon on n'entend rien. C'est pas
Et être dans un dialogue intérieur, moi ce que moi j'ai, entre guillemets, alors que normalement c'est quand même, je pense que j'ai 6-7 ans, donc normalement j'aurais à apprendre un peu plus vite, donc là je suis un peu. Mais en fait, être dans un dialogue, c'est-à-dire vous avez un début de truc, vous demandez au bon Dieu, et puis vous voyez comment ça avance. Quoi.
Moi, c'est le petit salut, alors ça m'a fait un peu penser à ça.
Par exemple, dans les Écritures, pour vous dire, en fait, il y a des trucs hallucinants dans les Écritures. Dans les Écritures, 1 Samuel 14, la prise de poste des Philistins par Jonathan. Je ne sais pas si ça vous parle, ce passage. Manifestement, pas beaucoup. Donc ça, c'est un truc que j'avais déjà lu, mais c'est des souvenirs, on se souvient du passage. Moi, il n'avait jamais rien produit dans ma vie, ce passage-là. Et là, je relis ce passage l'autre jour, et en fait, il y a les armées qui sont là, il y a les Philistins un peu en face, c'est un peu la même chose que David et Goliath, mais un peu dans une autre configuration, un petit peu avant, c'est 1 Samuel 14. Puis il y a Jonathan hein, qui dit à son écuyer, sortons. Alors tout le monde est un peu en attente de, est-ce qu'on va aller combattre et tout, il dit, sortons. Bon, un verset plus loin, ça veut dire il a une motion de « faut bouger ». Donc il bouge. Un verset plus loin, il dit à son écuyer « sortons, Dieu va peut-être faire un truc ». Parce que qu'on soit peu, qu'on soit deux ou 2000, Dieu peut faire un truc. Donc là, c'est un petit peu le niveau du dessus, c'est-à-dire comme si le truc qu'il avait intérieurement se précise un peu. Et là, l'écuyer lui répond « fais selon ton cœur ». Moi, ça m'a tilté 2 jours après, quand j'ai eu le truc de la petite motion avec la boulangère, et avec moi, mon curé qui me dit « Vas-y, je te suis, en gros. » Exactement ce petit truc-là, vous voyez, qui permet de consolider la petite motion que vous avez. Et après, donc, il commence à aller vers le petit poste philistin, et en s'approchant, il dit « Bon, dans 20 secondes, ils vont nous voir. » Et là, il dit « Bon, il prend une décision, il dit, si jamais ils nous disent, bougez plus, ça veut dire qu'il ne va rien se passer. Si jamais ils nous disent, venez vers nous, ça veut dire que Dieu les a livrés entre nos mains. Donc ça, c'est plus audacieux, c'est que Jonathan, il dit, bon, il provoque Dieu en lui donnant une espèce d'alternative, de signe, et il dit, donc parfois, il peut y avoir des choses comme ça que le bon Dieu nous demande, et dire, vas-y, tu présentes un truc, et Dieu, le bon Dieu va te donner un signal pour dire si c'est feu vert ou feu rouge. Et ensuite, il y va, il gagne, et cette victoire crée le why chez les Philistins et un enthousiasme côté machin, et ça entraîne une des grandes victoires en Israël. Mais le point de départ de cette victoire de l'armée d'Israël, c'est Jonathan qui sent l'espèce de vague truc de « faut bouger », mais il ne sait pas encore quoi. Et donc, il peut vraiment arriver, moi j'ai du mal à être obéissant là-dessus, mais il peut vraiment arriver que vous ayez un début de truc sans avoir encore la fin. Donc je pense qu'en plus, vous, comme vous êtes plutôt cérébraux, globalement, vous allez avoir vachement de mal à ne pas vous dire « Attends, moi je veux tout le truc, quoi, je veux toute la série, je veux qu'on m'explique A, B, C, les 3 points, comment ça va finir, si c'est raisonnable, si ça a du sens et tout. » En fait, ça peut ne pas du tout se passer comme ça, c'est-à-dire que je te donne un premier truc. Vous voyez, par exemple, quand Dieu inspire... Philippe, dans les Actes, il lui dit va sur la route qui va de Jérusalem à Gaza ou de Gaza à Jérusalem, elle est vide. Vous voyez, c'est absurde en fait. J'ai eu un truc comme ça cet été. Sors, va là, machin. Bon, il s'est rien passé. Mais j'étais content en revenant parce que je me dis, j'ai oublié un truc semi-absurde quand même. Pas pour dire on devient débile, mais pour dire en fait, moi je suis plutôt 5 aussi en énéagramme, on va dire, moi je suis plutôt un peu là. Et en fait, il faut lâcher quand même. Vous voyez, il ne faut pas vouloir. Donc, vous, je pense que vous soyez attentif à être prêt à ce que Dieu vous dise. Va à cet endroit-là, il n'y a personne. Et à un moment, il y a quelqu'un qui arrive. Vas-y, cours, rattrape-le. Bon, et puis là, le mec, en fait, il attend, le mec, il est prêtre catéchumène, quoi. Il attend que quelqu'un vienne lui expliquer, et puis il dit, est-ce que je peux être baptisé ? Le rêve du missionnaire, quand même. Le mec, au bout de 5 minutes, il dit, est-ce que je peux être baptisé ? Explique-moi l'écriture. Y a-t-il quelqu'un pour m'expliquer l'écriture ? Est-ce que je peux être baptisé maintenant ? Mais le point de départ de ce truc-là, c'est va sur la route, elle est déserte. Pour dire, faut accepter aussi d'être dans une forme d'obéissance où voilà, on passe aussi par l'humiliation de l'intelligence.
D'autres questions.
Quand dans la prière, on a des paroles ou des pensées qui nous viennent, comment on peut distinguer ce qui n'est qu'une distraction et ce qui vient de Dieu?
Il n'y a pas de réponse. Le critère pour ceux qui viennent de Dieu, ça va être ce que ça produit quand même intérieurement comme fruit spirituel, en fait, ou sur la piste de quoi ça mène. La distraction, on a plutôt l'impression que c'est un truc qui nous embarque, et on se réveille au milieu d'une distraction, on dit « Ah ouais, j'étais parti de… Voilà. » Alors que là, si on est en train de on pose une question à Dieu, où on est en train de méditer, puis qu'il y a une petite image qui passe, là, on peut se faire. Mais il n'y a pas de… Parfois, il faut la tester pour voir… Donc, parfois, il faut redemander au bon Dieu de « Qu'est-ce que tu veux me dire par là, quoi ?» S'il y a une image, ou s'il y a une parole, ou s'il y a une… Ça peut être aussi, parfois, vous voyez, ce qui peut vous venir, ça peut être une parole des Écritures que bon Dieu a envie de vous donner à tel moment. Vous voyez, le coup de la Bible, moi, j'y croyais pas trop, et donc, moi, vraiment, j'ai eu des dizaines de fois un numéro de page, et parfois maintenant je demande une image en plus, parce que quand vous êtes devant une page entière de l'Église, vous vous dites bah, c'est où le truc, donc parfois je demande un truc en plus pour avoir quelque chose de plus précis. Parfois ça marche pas, mais parfois j'ai eu des trucs vraiment assez saisissants. Mais mon Dieu m'a fait un pied de nez, parce que c'est au début je dis ouais, bon, les charismes de texte, le truc dans la Bible, bon, c'est un peu les trucs de communauté d'Emmanuel, quoi. Tu ricanes, bah tiens. Je connais d'autres personnes, elles ouvrent la Bible comme ça et elles tombent sur un truc. Voilà. C'est possible. Hein?
Attesté, je suis allé perdre du désert.
Ça. Ouais.
C'est vrai que nous, on a un rapport très très cérébral, un peu sous l'influence protestante en partie, hein, mais le coup d'une foi qui est d'autant plus forte qu'elle se passe des signes, c'est très. C'est un tropisme très, très protestant, mais qui, de fait, c'est un peu forgé notre manière de recevoir l'écriture. Hein, puis,
est-ce qu'il faut nécessairement partager les signes de phrase? Comment savoir s'il faut partager tout bien les signes
reçus? Ah oui, très bonne question. Parce que, de fait, ce serait assez bien, parce que, vous voyez, on va dire, je reçois quelque chose, je peux demander l'interprétation, et après, je demande au bon Dieu ce que j'en fais. Parce que parfois, on peut recevoir une parole intérieure pour une personne juste pour comprendre un peu ce qu'il y a dans une personne, mais sans avoir à le lui donner. Et parfois, ça va être pour le lui donner et ouvrir son cœur et sa foi. Donc, alors, je ne sais pas si c'était ça la question. Ça, c'est pour quelque chose qu'on reçoit d'avant. Parce que sinon, il peut y avoir le fait de « j'ai vécu quelque chose comme les histoires que je raconte là ». Moi, je vous encourage plutôt, quand vous vivez des histoires comme ça, au début, moi, parfois, je n'osais pas trop les raconter en me disant bah, « ça fait un peu, je fais mon intéressant » ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, non, parce que là, si ça m'est donné à moi, c'est pour édifier votre foi, et quand vous vivez des trucs, vous voyez, c'est pour s'édifier mutuellement. Et si vous êtes dans des communautés chrétiennes où on se raconte ces histoires-là, ben en fait, le niveau de foi, je peux vous dire qu'en fait, il augmente. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous voyez, vous venez dans un truc, et toutes les semaines, vous allez entendre des… Parce que moi, c'est ce qui se passe un petit peu aux pôles missions, c'est-à-dire quand on lance un peu les gens comme ça… Après, il n'y a pas que moi qui arrive des trucs, il y a des gens qui vous racontent des trucs, quoi. Et donc, au lieu d'avoir que votre radar avec un éco-radar tous les, une fois par semaine, vous rencontrez un peu les gens, c'est-à-dire que vous avez bip, 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 ça fait ça en permanence. Quoi. Ben, ça vous aide, ouais, ça va vous donner des points d'appui pour la foi et ça va vous permettre de poser des actes de foi pour tous les autres lieux où vous ne sentez rien, où il n'y a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il y a plein de moments dans la vie où il faut poser un acte de foi, où il faut poser des actes de foi, je dirais, sans point d'appui précis. Mais tous les signes qui vous sont donnés, quand vous les digérez, ils vous permettent, vous voyez, d'aller de... Si on prend le Pentateuque, c'est que dans le Pentateuque, on a la foi qui s'alimente des signes. C'est, ils traversent la mer, ils n'avaient pas la foi, puis quand ils arrivent sur la rive de la mer, ils se retournèrent, ils virent et ils crurent en Dieu et en son prophète Moïse. Donc ils voient une foi qu'il y a eu un signe de puissance, le signe de puissance qui ouvre la foi. Mais vous avez le sens retour, c'est Abraham à qui Dieu dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Donc là, Abraham, il y va sans point d'appui. Vous voyez, le Pentateuque tout entier nous montre que les signes qui nous sont donnés, c'est pour édifier la foi et nous permettre de poser des actes de foi juste sur la parole, juste sur la promesse, qui est de fait une foi plus haute. Mais cette foi plus haute, elle s'appuie sur « je digère des signes ». Et donc si on élimine, vous voyez, si on ratisse et qu'on dit « mais non, en fait, les signes, c'est pas la foi pure », en fait, la foi pure, elle va jamais pouvoir monter en puissance. Enfin, la foi pure. La foi nourrie simplement par la promesse. Vous voyez, la foi qui va vers l'accomplissement. Il y a la foi qui s'appuie sur ce qui a été donné, et il y a la foi qui va vers la suite. Et la foi, c'est la vertu qui est au milieu, là. Je m'appuie sur ce qui a été donné pour m'attendre à plus. Ça rend l'espèce de dynamisme de fond de notre foi. Mais si je ne réceptionne pas ce qui a été donné, notamment, pas que, mais notamment à travers les signes, bah, ça va être petite portée quoi, derrière. Alors que si je digère vraiment, si je digère profondément les signes, je vais avoir une plus longue portée vers ce. Je m'attends vraiment à plus. Quoi. Donc la prochaine fois, et je commence à le voir, vous voyez, quand on commence à prier pour les gens, je commence à m'attendre à plus. En priant pour des personnes. Vendredi dernier, on a prié pour un gars. J'ai senti qu'on pouvait demander un signe que Dieu se manifeste à lui là, ici et maintenant. Et en priant pour lui, mais 25 secondes, hein, j'ai dit à Jésus, Seigneur Jésus, de même que tu t'es manifesté à moi, je vais raconter mon histoire quand j'étais adolescent. J'ai dit, Seigneur Jésus, de même que tu m'étais manifesté à moi quand j'étais adolescent, je te demande de te manifester maintenant à Herman. Et il a senti, il m'a dit, c'est pas pour vous faire plaisir, mais il a senti un truc intérieurement. Je ne fais pas à tous les coups, vous voyez. Là, j'ai senti que je pouvais le faire, mais je m'appuie sur des trucs que j'ai vus déjà. Et donc maintenant, j'ai plus la foi. Vous voyez, j'y vais, alors que là, je m'attends à ce qu'il se passe un truc. C'est ce que fait David. Il dit que j'ai combattu contre le lion et l'ours, et donc je vais désinguer ce Philistin. Il s'est passé des trucs, il va se passer plus. Voilà.
Et justement, là-dessus, un peu dans l'autre sens, on a parfois l'impression, enfin je trouve en lisant l'Évangile, qu'en fait, le miracle, le signe, est directement conditionné, entre guillemets, par la quantité de foi de la personne en face. C'est-à-dire, c'est Jésus, en voyant la foi, qui se dit, faisons un miracle. Et du coup, comment est-ce qu'on se dit pas, quand, entre guillemets, ça ne marche pas, c'est toute ma faute, c'est parce que... et il faut avoir la foi, et c'est là qu'il va se passer des choses. Et sinon, c'est que j'ai raté un peu, quelque part.
Ouais, alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez tous la foi. Et Jésus dit, même si elle est que comme ça, il peut commencer à se passer des trucs. Voilà. Donc les vis métalliques ne sortent pas de la jambe, mais la dame n'a plus mal. Ce qui est difficile, alors de fait, remettre en cause notre foi personnelle un petit peu en disant, voilà, en fait, j'ai pas assez la foi, donc je vois bien qu'il faut la demander plus. Donc c'est vraiment une des prières qu'on peut demander aussi, une des choses pour lesquelles on peut commencer, c'est de demander la foi. Plus de foi, Seigneur, je te demande plus de foi. Ce qui est plus touchy, c'est, tu vois, la personne, quand là, la maladie, enfin, la douleur est revenue dans sa cheville, en parlant avec deux, trois personnes, en fait, j'ai vu que c'était sa foi à elle, en fait. Mais c'est très... On ne peut pas faire peser ça sur la personne. Donc, dans la manière de lui parler, ce que j'ai essayé, c'est vraiment de l'affermir ce matin en lui disant, mais voyez, en fait, cette guérison, elle vous a été donnée. Il n'y a pas deux jours comme ça où c'est que dans la tête. Vous voyez, quand on a mal tous les jours depuis 5 ans, c'est pas psychologique de plus avoir mal pendant 2 jours. 5 minutes, oui, pas 2 jours. Et en plus, depuis, elle va quand même mieux, elle avait déjà plus qu'une béquille. Et donc, vous voyez, là, on a travaillé autour de ça, mais j'ai quand même vu que là, pour elle, il fallait qu'il y ait une ouverture à, en fait, oui, ça peut être définitif, ça peut être, c'est possible, plus c'est possible. Une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai vu des choses, mais qui sont des petites choses, hein, ce dont je parle là, c'est encore des petites choses. Mais j'ai vu des choses comme ça se passer, alors que moi, j'y croyais à peine et que la personne n'y croyait pas non plus. Et j'ai des témoignages comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que le truc peut tout à fait démarrer. Si déjà, vous voyez, à un moment, vous tentez un truc, bah, c'est de prendre un risque c'est déjà la foi, quoi. Je prends un risque pour le bon Dieu. Mais tu soulignes un point qui est délicat, qui n'est pas facile, mais qui est assez bien attesté dans les évangiles, c'est qu'à un moment, il faut demander plus de foi, quoi. Demander plus de foi pour nous. Jésus s'énerve un peu parfois en disant, les mecs, jusqu'à quand vais-je devoir vous supporter? C'est moi qui suis obligé de faire le boulot derrière. Ouais. Mais toutes ces questions-là, en fait, c'est bien, vous voyez, de s'éveiller à cette culture-là des charismes pour en parler entre nous, et après en parler un peu au bon Dieu, et après c'est lui qui nous conduit, quoi. On va s'arrêter parce qu'il est là.
Merci à toi.